Maintenant, donner la parole à Élise Valois, juriste au Comed, et Marie Cossard, psychologue référente pour le Comed.
Je voulais commencer par rajouter effectivement des noms et des prénoms sur le Comed, est présent pour vous faire une petite intervention ce soir. Donc, du coup, Marie Cossard est donc psychologue référente au centre de santé du Comed au Kremlin-Bicêtre. Et moi, je suis juriste, donc appartenant au service social et juridique. Et moi, je suis une délocalisation du Comed à Marseille. Voilà pour une présentation un peu complète. Alors, on va vous faire une intervention à deux voix ce soir. Alors, autour de la question de la prise en considération de la santé mentale et de la maladie mentale, qu'on a concentré essentiellement, après, ça n'empêche qu'on pourra discuter après de cette prise en considération dans les histoires de droit au séjour pour raisons médicales, mais qu'on a concentré sur dans les espaces de privation de liberté que sont notamment pour les exilés la zone d'attente et le centre de rétention administratif. À deux voix et du coup sur deux aspects, hein, vous l'avez compris, on n'a pas du tout les mêmes domaines d'intervention. Donc à la fois comment le droit va tenir compte de la santé mentale et de la maladie mentale dans ces lieux d'enfermement, et comment le soin psychique va le faire de son côté. Et on va voir que s'il peut y avoir des similarités, il y a à la fois dans la prise en compte, à la fois dans les difficultés. Et donc on va se faire ce jeu un peu difficile de jongler entre deux domaines. Mais je suis très confiante sur nos capacités.
Alors, je commence par une définition. Définition de la tâche aveugle en médecine. C'est le point de la rétine qui ne voit pas, en raison de l'absence de photorécepteurs, il correspond à l'endroit où le nerf optique et les vaisseaux sanguins quittent l'œil. Ainsi, c'est une tâche dans le champ visuel où les objets ne sont pas vus. La tâche aveugle, c'est aussi une expression utilisée en psychanalyse. Elle désigne en fait le manque à représenter, l'impossibilité de se figurer. Cette impossibilité de se représenter, elle peut soit advenir chez le patient, soit pour le psy. Qu'en est-il de la prise en considération de la santé mentale et de la souffrance psychique dans les espaces de privation de liberté pour les exilés, donc en zone d'attente ou en centre de rétention? Autre question, qu'en est-il de l'appréhension des troubles psychiques et des troubles psychiatriques dans ces lieux administratifs de privation de liberté? Donc d'un côté la santé mentale, comme on vous l'a expliqué, de l'autre les troubles psychiatriques avérés, la maladie mentale. Est-ce qu'il y aurait, et c'est notre question, c'est notre fil rouge, une tâche aveugle concernant la santé mentale et les troubles mentaux dans ces espaces-là? Est-ce qu'en fait, il y aurait comme une difficulté à se représenter comment la souffrance psychique ou comment les troubles psychiatriques sont pris en charge dans des espaces aux pratiques par ailleurs très différentes? Donc de l'extérieur à ces espaces, mais en fait, je ne suis pas si éloignée que ça parce que je suis psychologue dans un centre de santé qui reçoit des exilés, nous parviennent les rapports officiels du Sénat, du Conseil de l'Europe, du Comité européen pour la prévention de la torture, les rapports annuels des 5 associations qui interviennent donc en CRA, le rapport de la CIMAD 2012-2013, le droit à la santé des personnes enfermées en rétention administrative. Il y a aussi quelques études qui viennent de MSF Belgique et du Canada concernant les lieux de détention des étrangers. Et puis, il y a aussi les témoignages, hein, les témoignages des professionnels au cours des formations, des témoignages sur les blogs, mais aussi ce qu'on peut trouver à l'intérieur des ethnographies de certains sociologues. Ces témoignages sont précieux et on entend en fait la perplexité dans laquelle certains se retrouvent pour identifier les souffrances, appréhender les manifestations psychologiques, voire psychiatriques particulières qu'on retrouve dans ces endroits-là. Donc, il y a en France un psychiatre, donc dans l'unité médicale de CRA. Il y a eu des tentatives de vacation de psychologues sans succès. Il y a eu 3 stagiaires psychologues en cours de formation qui ont effectué des stages au sein donc, des unités médicales de centres de rétention. Il n'y a pas d'études en France qui seraient produites par des psychiatres ou des psychologues sur la santé mentale en CRA. Donc dans ces lieux extrêmes de privation de liberté, les rapports évoquent la souffrance psychiatrique. C'est rempli de ça, des troubles psychiatriques dont la prise en charge est très variable. Ces rapports montrent aussi que parfois on a recours à des mesures coercitives d'isolement qui sont en lien avec les troubles psychiques
et qu'il s'avère difficile d'appréhender ou de prendre en charge ces troubles dans ces espaces. On a aussi plein de recommandations sur la nécessité de prendre en compte la détresse psychologique et l'incompatibilité, bien sûr, de l'enfermement avec des troubles psychiatriques graves. Donc ce qui ressort de tout ça, c'est très bruyant, mais ça ne suffit pas parce que cette tâche aveugle, elle persiste et elle fait signe. Donc comment les troubles psychiques, la maladie mentale est-elle prise en charge en centre de rétention ? Donc comme vous le disiez, on peut facilement supposer que le type de pathologie qui peut se déclencher ou comment une personne peut s'effondrer. Nous, dans un langage psychologique, psychiatrique, on dit une personne décompense, c'est-à-dire qu'elle déclenche une pathologie. Mais le travail clinique ne peut pas s'appuyer sur des hypothèses comme ça. Donc cette tâche aveugle, elle raconte quoi ? Une volonté de ne pas laisser la place à l'expression des troubles psychiatriques par crainte d'être débordée, une incapacité à contenir ou à appréhender les troubles psychiatriques, ou alors peut-être que cela parle du paradoxe même de ce lieu, de ces lieux, et que derrière cette tâche aveugle se cache le paradoxe de ce lieu, l'impossibilité de se représenter l'ambiguïté même du lieu. C'est ce qu'on verra un petit peu plus tard.
Donc comme Marie vous a un peu présenté les choses, il y a d'un côté la santé mentale, c'est-à-dire les troubles qui seraient liés, qui pourraient être attribués au fait d'être enfermé en soi, et les troubles qui existaient préalablement, les troubles avérés. Globalement, les notions juridiques pour les lieux d'enfermement, elles se découpent en fait, elles aussi, autour un peu de cette question de la compatibilité de l'état de santé avec l'enfermement. Donc ce serait plutôt les troubles qui ont lieu pendant l'enfermement, liés potentiellement à eux, mais pas seulement, hein. Et la notion juridique de celle de l'état de santé qui va justifier ou non que la personne elle va pouvoir sortir de ce lieu d'enfermement parce qu'elle justifierait d'un droit au séjour. Vous voyez, la question de la compatibilité et il y a la question de la protection contre l'éloignement et du séjour en lui-même. Alors, en zone d'attente, donc la zone d'attente au cas où, c'est un endroit où les personnes du coup sont enfermées parce qu'on estime qu'elles ne remplissent pas les conditions pour entrer en France, donc elles ne sont pas encore sur le territoire français. Les personnes qui sont placées en zone d'attente et qui y sont maintenues, elles vont avoir le droit de demander l'assistance d'un médecin. Donc ça, c'est un droit qui est reconnu. Il existe pour la seule zone d'attente de Roissy un service médical dédié. Et pour les autres zones d'attente, il n'y a aucun accès direct à une équipe médicale et il va falloir passer par les autorités de police pour accéder à un médecin, sachant que chaque zone va avoir une convention qui est passée avec l'hôpital public le plus proche et que c'est là qu'on va transférer les personnes pour qu'ils voient un médecin. Alors, il y a une équipe médicale, il n'y a pas de... Mais ça, Marie vous l'a déjà dit, hein, ni psychiatre, ni psychologue dans les zones d'attente. À Marseille, par exemple, la zone d'attente est dans le même document que le centre de rétention. C'est sur deux étages. Il y a un étage qui est la zone d'attente, un étage qui est le centre de rétention. Il y a une équipe médicale pour le centre de rétention, mais les gens qui sont placés en zone d'attente à l'étage du dessous n'ont pas accès à l'équipe médicale du centre de rétention. Voilà, il n'y a pas d'accès à une équipe médicale. Donc, ça, c'est pour le droit de voir un médecin. Et ce qui est important de retenir pour la zone d'attente, c'est qu'il n'y a aucun texte qui pose le principe d'une protection pour l'étranger placé en zone d'attente du fait de son état de santé, qui fait que contre son renvoi dans son pays de provenance. Parce que vous savez que quand on est en zone d'attente, on est renvoyé vers son pays de provenance, qui n'est pas forcément son pays d'origine. Si vous êtes guinéen, mais que vous êtes passé par la Chine, vous serez renvoyé vers Pékin et non pas vers Conakry. Il n'y a aucune protection qui est prévue dans les textes relativement à l'état de santé. Alors, du coup, ce qui va se passer, c'est que la protection de l'état de santé, elle va se faire au niveau seulement de l'incompatibilité avec le placement en zone d'attente ou le maintien en zone d'attente. Dans ces cas-là, il va falloir que l'étranger le fasse valoir. Alors, soit tout seul, en saisissant la police pour que ça remonte et qu'il prenne en considération les éléments de santé et qu'il soit procédé à sa libération, soit pratiquement, plus vraisemblablement, ça se passe devant le juge des libertés et de la détention, qui, à un moment de la procédure, va être seul à pouvoir décider si l'étranger continue d'être maintenu en zone d'attente. Et on pourra faire valoir à ce moment-là des éléments relatifs à son état de santé. Et le juge des libertés pourra estimer que son état de santé n'est pas compatible avec le maintien en zone d'attente. Mais alors, pour cela, il faut avoir des éléments médicaux à faire valoir et il faut un certificat médical qui puisse l'expliquer. Mais comme on l'a vu précédemment, les difficultés vont pouvoir être assez importantes pour justifier de ce que son état de santé n'est pas compatible avec le placement en zone d'attente. Donc, la deuxième hypothèse de libération sur l'état de santé, mais alors là, c'est un peu résiduel, c'est que le JLD, il est en charge de vérifier que les droits ont été respectés pendant le placement en zone d'attente. Donc, du coup, même si l'état de santé n'est pas mis en avant comme incompatible avec le placement en zone d'attente, il va pouvoir y avoir des remises en liberté par ce juge au motif que l'étranger n'a pas pu faire valoir ce droit d'être assisté d'un médecin et de voir ce médecin. Mais c'est un peu résiduel par rapport au sujet de ce soir. Sur la rétention, on a un petit peu plus d'éléments, puisque les étrangers, vous le savez certainement, mais donc du coup malades, vont être protégés par la loi contre le prononcé ou l'exécution d'une obligation à quitter le territoire français dans les mêmes conditions, sur les mêmes critères médicaux qu'en matière de droit au séjour pour raison médicale. Et cette protection, elle est absolue, même si l'étranger n'a pas fait valoir justement qu'il pourrait bénéficier d'un droit au séjour pour raison médicale. Si toutes ces informations ressortent au moment d'un placement en rétention, peu importe qu'il ne l'ait pas fait valoir auparavant. Les étrangers malades, ils sont donc protégés contre l'exécution des mesures d'éloignement et également contre, du coup, leur placement en rétention administrative en théorie. Il faut pour ça saisir les médecins de l'unité médicale du centre de rétention administrative, de l'UMCRA, comme Marie vous le disait, et qui va lui-même normalement saisir le médecin de l'agence régionale de santé pour qu'il rende un avis. Et en fonction de cet avis, il doit être procédé à la remise en liberté de l'étranger. Il y a toujours aussi la possibilité de faire valoir l'incompatibilité du placement en rétention, de l'enfermement avec l'état de santé de la personne. Mais ce qu'on voit dans tout cela, et ce que Marie va vous développer plus largement, c'est qu'il y a bien dans le droit une prise en compte théorique de l'état de santé des personnes exilées qui vont être privées de leur liberté. Puisque vous voyez, il n'y a pas de distinction dans les textes entre les différents types de problèmes de santé qu'on pourrait rencontrer entre le somatique ou le psychologique, le psychique, le psychiatrique. Hein, ça n'est pas distingué. Et donc, les pathologies, la santé mentale ou la maladie mentale va pouvoir être à la base d'une protection contre l'éloignement ou le support de la remise en liberté d'une personne du fait de l'incompatibilité avec l'enfermement. Mais dans la pratique, alors, il y a d'une part pas mal de choses à faire du point de vue théorique pour cette prise en compte dans la zone d'attente, puisqu'il n'y a pas encore de texte. Mais dans la pratique, on va voir que la santé mentale, en zone d'attente et en rétention, est difficilement prise en compte quand, d'ailleurs, elle n'est pas même niée, puisque la santé mentale ou la maladie mentale va se voir très souvent, Marie a commencé à vous le dire, mais apporter une réponse qui sera sécuritaire, de placement en isolement, mais pas du tout dans du soin quelque part, plutôt dans une réponse sécuritaire. Et elle va aussi être beaucoup considérée comme un moyen qui est mis en œuvre, une stratégie qui est mise en œuvre par l'étranger pour faire obstacle à son enfermement ou son éloignement. C'est pas réellement un problème, il n'a pas vraiment un problème de santé. Ben, il joue au fou, je ne sais pas si c'est bien de le dire comme ça, mais il joue au fou parce que comme ça, ça va lui permettre de sortir de rétention. Mais ça, c'est des réels problèmes qui se posent dans la prise en compte pratique des problèmes de l'état de santé et des problèmes de santé mentale et maladie mentale dans les lieux d'enfermement.
Alors, je vais faire une petite partie sur les troubles psychiques dans les lieux de rétention. Donc, pour appréhender la particularité donc, de la santé mentale dans ces lieux-là, soit on peut aller du côté de la clinique de l'exil, soit on peut aller du côté des problématiques santé mentale et prison, qui permettent donc de mieux se figurer ce qu'on peut trouver comme type de pathologie. Donc, en quoi la clinique de l'exil est spécifique ? Alors là, je cite le guide Comed, dont la nouvelle mise à jour vient de sortir, d'ailleurs. Je cite. « En raison des événements qui l'ont provoqué dans le pays d'origine, violences, conflits, ruptures multiples, et des conditions de vie dans le pays d'accueil, complexité du parcours d'insertion, précarisation du statut administratif ou discrimination dans l'accès aux droits, on l'a vu, vous l'avez dit, l'expérience de l'exil affecte profondément la santé. » Donc, l'état de santé, vous l'avez dit aussi, est associé donc à des facteurs de vulnérabilité, des facteurs de risque, vous avez dit, donc sur les plans psychologiques, social, juridique et médical, dont le cumul donc fait la spécificité de cette clinique de l'exil et dont les effets conduisent donc à identifier des situations et des populations prioritaires pour les actions de santé publique. L'exil, ça entraîne aussi une diminution de ce qu'on appelle en psychologie des défenses. Des mécanismes de défense, c'est-à-dire comment on va pouvoir se défendre face à des difficultés. On peut supposer donc que la fragilité déjà donc psychique liée à l'exil va être renforcée dans les lieux de rétention. Le milieu carcéral, de l'autre côté, on a dit la clinique de l'exil, maintenant on va du côté de santé mentale et prison. De l'autre côté, le milieu carcéral, comme l'a expliqué par exemple la médecin psychiatre de Beaurepaire, c'est un stresseur expérimental. Elle dit « Le contexte carcéral est un stresseur expérimental, enfermement, perte des repères identitaires sociaux, promiscuité, inactivité, impuissance, rupture affective, familiale, sociale et professionnelle. » Donc le coût psychique de l'enfermement n'est pas suffisamment pris en compte. Donc on peut aisément supposer qu'en zone d'attente et en centre de rétention, il y a une surdétermination des facteurs pouvant provoquer une souffrance psychique. L'enfermement, l'incertitude, l'angoisse de mort qui peut être liée au retour, l'arrachement au pays, le sentiment d'impuissance, la situation aussi de dépendance extrême à l'autre, le sentiment d'abandon. Rim Mansour, qui est intervenue dans une réunion de l'OE l'an passé, qui travaille au CRA de Marseille, avait dit dans un article de Cause commune de janvier 2015 « Je me demande s'il est possible de ne pas souffrir en rétention. Je ne vois pas comment on peut y être bien. Il nous faut tenir compte lorsqu'on intervient auprès de ces personnes. Je m'efforce de prendre la personne dans sa globalité. Il faut être attentif, poser les bonnes questions et être prêt à écouter leurs souffrances. » Et elle estime qu'à peu près 2/3 des consultations, donc dans l'unité médicale du CRA, relèvent de la santé mentale. Donc, il faut voir aussi que dans les troubles psychiques en centre de rétention, qu'on retrouve en rétention, il y a les troubles qui existaient avant la rétention. Donc dans ce cas, un diagnostic a été ou non posé. Dans ce cas, une prise en charge a été ou non mise en place. Certains peuvent avoir donc aussi des troubles préalables qui s'exacerbent dans les situations difficiles. Donc il y a un rapport, qui est le rapport de MSF, mais il y a aussi l'étude canadienne de Jeannette Cleveland, qui a fait vraiment une étude directement dans ces lieux-là, et qui montre par exemple que la symptomatologie liée au psychotraumatisme et aux dépressions est augmentée dans les lieux de rétention des étrangers. Voilà. Là, on va se poser la question de la continuité des soins, c'est-à-dire s'il y a des soins qui ont été commencés avant, ils sont interrompus. Une rupture avec le traitement. Et une rupture aussi, et ça c'est extrêmement important, du lien avec le psychothérapeute, quand il y a eu un lien avec le thérapeute. Voilà. Alors, ces lieux-là, les lieux de rétention, donc on va juste maintenant s'intéresser un peu aux facteurs qui vont augmenter les troubles psychiques.
C'est des lieux qui sont des lieux marqués par l'incertitude. C'est-à-dire que c'est des lieux où les personnes sont arrachées brutalement à leur parcours ou à leur quotidien. La plupart du temps, ils vivent un sentiment d'injustice. C'est des lieux où se mêlent l'urgence et aussi l'attente, parfois longue et anxieuse. Donc, la situation, elle est marquée aussi par le peu d'activité, parfois par l'isolement, qui peut augmenter le stress, par la question de l'expulsion, par l'angoisse d'être envoyé au pays, par l'incertitude donc liée à l'expulsion, est-ce que ça va être imminent ou pas, le fait de ne pas être prévenu. Et donc, c'est aussi un temps qui est marqué par l'incompréhension des démarches, la succession des démarches. Et cette incertitude de la situation, ça augmente encore le stress, la fragilité psychique. Il y a aussi, ce qu'il faut noter, c'est la dépendance à l'autre, c'est-à-dire une sorte d'impuissance qui peut rappeler, par exemple, des temps psychotraumatiques où on n'a pas pu se défendre, où on n'a pas pu agir, en fait. Voilà. Et ce qui est aussi compliqué, c'est que dans ces temps donc, d'incertitude, d'incompréhension, il y a aussi autre chose, c'est que la temporalité psychique, ce n'est pas la même que la temporalité administrative. Et ces temporalités, elles entrent parfois en contradiction. Même pour les soignants ou les autres professionnels, dans ce dispositif de la rétention, dans cette urgence de la situation, il y a souvent une difficulté à appréhender les troubles psychiques parce qu'il y a cet effet-là. Aussi que pour faire une évaluation, pour faire un diagnostic, il faut un peu de temps. Voilà. Et donc, il y a vraiment cette temporalité psychique qui va se coltiner à la temporalité administrative et qui ne vont pas forcément être compatibles. Les lieux d'enfermement, c'est des espaces qui sont marqués par l'ambiguïté. Et ça, c'est du côté des sociologues qu'on retrouve ça. C'est-à-dire les travaux, par exemple, de Franck Enjolras ou de Nicolas Fischer qui vont décrire des lieux de contradiction et d'instabilité. Et l'ambiguïté de ce lieu, c'est ce qu'on disait un peu en introduction, concerne aussi bien les retenus que les professionnels. Incompréhension, sentiment d'injustice, détresse d'un côté, c'est-à-dire enfermé, mais pas de délit. Et il y a indéniablement, et pour paraphraser le titre d'un article assez connu dans le monde psy, un effort pour rendre l'autre fou. C'est-à-dire que dans ces lieux, beaucoup d'éléments sont réunis pour faire décompenser. Donc je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire dans un langage un peu courant, on dirait pour craquer, parce qu'on ne va pas tous se casser de la même manière en psychologie. Donc soit, si on est un peu abandonnique, on va avoir des manifestations abandonniques, des affects dépressifs vont être augmentés. Si on est un peu paranoïaque, les positions paranoïaques vont être augmentées, etc. Voire des positions psychopathologiques plus graves, comme des dissociations schizophréniques. Franck Enjolras, dans son travail ethnographique en CRA, par exemple, montre comment les policiers disent souvent « ici, c'est administratif, c'est pas pénal ». Et en insistant sans cesse sur cette distinction entre administratif et pénal, c'est le paradoxe même de la configuration du lieu et de la procédure qui est représentée. Et les propos tendent à confirmer le contraire de ce qu'ils énoncent, c'est-à-dire qu'il s'agirait bien d'un lieu investi comme carcéral. Et donc, ce travail, tout le travail de ces sociologues montre très bien comment les positions et les pratiques professionnelles, de celles de policiers à celles des professionnels, des UMCRA, etc., sont marquées par des difficultés de légitimité, des stratégies relationnelles qui sont pleines de dilemmes et de controverses, de sentiments émotionnels et d'enjeux moraux contradictoires. Franck Enjolras montre aussi très bien comment la multiplicité des discours des différents professionnels qui peuvent circuler autour de la santé mentale, de la détresse psychologique, etc., vont finalement faire une sorte d'analyse profane un peu sur les troubles psychologiques. Alors, la question de la santé mentale, elle est partout présente en CRA, mais l'assourdir, est-ce que ça ne serait pas une manière finalement de réduire la question de l'effet de la rétention que ça a sur tout le monde? Est-ce que ce n'est pas comme une manière aussi de se protéger de la manière dont cela impacte les affects et les représentations de chacun? Peut-être aussi, comme le faisait remarquer Laura Petersel, que la question de la maladie mentale porte avec elle la peur de la folie. En effet, certains comportements peuvent apparaître inquiétants et on a peur de la folie et on ne sait pas toujours comment réagir ou comment interpréter ces manifestations. Alors le paradoxe persiste, même jusque dans les textes officiels. Par exemple, d'un côté, le Sénat reconnaît que c'est un lieu qui génère un certain nombre de maltraitances. Et dans ce lieu, on va demander à des acteurs de santé, comme des psychologues, parce que c'est ce qui est dit, de compenser les difficultés que génère le lieu même. Donc aider les retenus à supporter le lieu, l'idée du retour, voire faire un travail psychique sur le retour au pays. Alors, je ne vous dis pas, le psychologue en crasse serait un peu dans une position paradoxale et éthique un peu questionnante. Moi, je me suis demandé où se situerait le bureau du psychologue clinicien. Je parle de celui qui a un pied dans la cité, c'est-à-dire dans la politique sociale, dans la santé publique. Le rapport de MSF Belgique le note, d'ailleurs, dans le coût humain de la détention. Le rapport du CIRE en Belgique aussi note chacun la difficulté pour les retenus de faire confiance à un psychologue qui est un psychologue travaillant à l'intérieur de l'institution. Reste alors le droit commun. Mais il faut rappeler que dans les pratiques, et vous le disiez très bien, qu'il est très difficile d'orienter les patients en CMP, parce que la psychiatrie va mal, que les délais d'attente sont longs. Quand on est exilé, nous on le sait au Comed, l'orientation déjà des patients vers le droit commun est encore plus difficile. On peut noter la difficulté d'accès à l'interprétariat, mais aussi les patients se confrontent aux représentations des soignants, à des visions culturalistes et aux formes aux portes qui se ferment plus rapidement quand on demande un rendez-vous. Donc l'organisation vers l'extérieur de soins ne se fait que quand il y a une urgence, et encore, mais pas vraiment en termes de prise en charge soignante. Donc le climat de suspicion est conséquent de cette incertitude et de cette ambiguïté. Ça revient à ce qu'Élise disait tout à l'heure, c'est-à-dire que la suspicion, elle va concerner la souffrance psychique et elle va entacher la prise en considération de cette souffrance psychique. Lorsqu'une personne s'automutile, elle a des idées suicidaires ou même fait une tentative de suicide, les questionnements vont toujours être: est-ce de la détresse ou un chantage? Est-ce que c'est une pathologie, une souffrance ou une manipulation? Et c'est une problématique qu'on retrouve d'ailleurs dans le milieu carcéral. Mais là, la difficulté diagnostique, elle entraîne un soupçon qui se fait aussi le relais des politiques sociales actuelles, ce que quelqu'un aussi comme Estelle Dallon a montré dans ses aspects sociologiques, les épreuves de l'asile, associations et réfugiés face aux politiques du soupçon, ou la psychologue psychanalyste Élise Pestre dans la perspective psychopathologique. Donc l'ambiguïté du lieu, le soupçon, vont entraîner une intervention qui va alterner tout le temps entre assistance et sécurité. Comme l'a montré Enjolras, notamment les policiers qui sont peu ou pas formés finalement à l'accueil en rétention, à l'accueil du public en rétention, se trouvent les garants du fonctionnement du lieu, de la structure, de la sécurité. Et donc la réponse aux détresses psy va être centrée autour du maintien de l'ordre, plus sécuritaire que médical. Et la pathologie mentale, elle-même, va se trouver finalement réduite à des manifestations comportementales. C'est le comportement et pas la pathologie. Donc il s'agit de maintenir l'ordre. Et ce que le rapport du Sénat énonce en toutes lettres, ce qui est un peu étonnant, donc 2013-2014, je cite, « Ainsi, les représentants du barreau de Marseille ont indiqué à vos rapporteurs qu'il était souvent recouru à l'isolement dans le centre de rétention de Marseille, sans possibilité de contestation de cette mesure, qui constituait souvent un palliatif à l'absence de possibilité de rencontrer un psychologue. » L'utilisation des médicaments se fait d'ailleurs dans la même perspective. Alors, je reviens sur cette tâche aveugle. Je me suis demandé, moi aussi, pourquoi, de mon côté, j'entendais pas souvent dans le discours des patients la question de leur passage en zone d'attente et en centre de rétention. Et c'est là que j'ai trouvé ma tâche aveugle. Je me souviens de ce patient qui a raconté assez tard, au cours de sa thérapie, son passage en zone d'attente, alors qu'il fuyait une situation d'emprisonnement et de violence subie dans son pays. Je me souviens aussi qu'il me faisait entrer, de par son récit, dans la zone d'attente. Il a été expulsé. Il a raconté avoir été attendu dans son pays sur le tarmac, réemprisonné, réexposé à des violences graves et des violences sexuelles en prison. Il est revenu une année plus tard en France. Il a pu entrer sur le territoire et y faire une demande d'asile. C'est peut-être là que se situe cette tâche aveugle pour moi en tant que psychologue, parce qu'à un moment, il y a peut-être quelque chose qu'on ne veut pas se représenter, parce que risque de ressurgir du côté du psychologue citoyen un sentiment de honte et de culpabilité au moment du récit que le patient fait sur son passage dans ce lieu d'enfermement et de privation de liberté.